Plus de 800 personnes ont participé hier soir à la Table de l'Amitié, un événement organisé sur l'hippodrome Henri Millard dans le cadre du Téléthon. Il faut avancer, c'est la conviction de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, était l'invité du magazine Transparence vendredi. Trois jeunes femmes radicalisées mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes, elles prévoyaient d'organiser une attaque en plein Paris. La princesse Anne est arrivée hier en Australie, elle va participer à divers événements liés au centenaire du corps australien des transmissions. Le sport avec du rugby et cette nouvelle défaite du 15 de France. Les Bleus se sont inclinés 32 à 17 contre l'Afrique du Sud ce matin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité sur le territoire, un franc succès hier soir pour l'édition 2025 de la Table de l'Amitié. L'hippodrome Henri Millard de Nouméa a accueilli plus de 800 personnes. Un événement organisé dans le cadre du Téléthon, je le disais en titre. Parmi les personnes présentes, des groupes d'amis, des associations, des clubs de services ou bien des personnes âgées. Ambiance.
Cette manifestation, je crois qu'elle existe depuis 18 ans. C'est la première fois que nous venons en famille ce soir. J'ai entendu sur Radio Rythme Bleu et toute ma famille est venue me rejoindre. C'est très important suite à tout ce qui s'est passé l'année dernière. Ça m'a motivée pour venir cette année, rien que le titre, la table de l'amitié. L'amitié entre tous en Nouvelle-Calédonie.
C'est quelque chose de super, parce que le Téléthon, ça rapproche les gens. On est dans l'aide pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et quand on voit ce soir le nombre de personnes sensibilisées par cette action, c'est formidable. Nous sommes alors en famille et en même temps, toutes les plusieurs communautés, les Indonésiens, les Tahitiens, les Antillais, on est tous regroupés pour bien montrer aussi que la Nouvelle-Calédonie, c'est le mélange des peuples.
Voilà.
C'est parfait pour nous.
Pour une bonne action, tous les ans, c'est bon enfant, c'est sympa, très sympa. En famille, la famille des Tahitiens, toute une table.
Nous, on est venu avec notre Lions Club de Dimbéa Espoir. On est à 25 personnes à peu près. C'est vraiment une table de l'amitié, on va dire, avec plusieurs ethnies. Nous déjà à notre table on est plusieurs ethnies, donc c'est déjà le vivre ensemble. C'est vraiment merveilleux et surtout pour une bonne cause qui est le Téléthon.
Et pour Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, cette table de l'amitié 2025 est une belle réussite.
Ça se passe bien parce que ici, c'est vraiment l'amitié qui domine. Énormément de monde cette année. On n'a pas pu être là l'an dernier à cause des événements. Mais ça fait 18 ans. Ça fait des années que je viens avec beaucoup de gens. Et j'espère qu'on sera là encore pour très longtemps à venir à cette belle table de l'amitié. À la fois, je crois que c'est un moment de remercier tous les bénévoles aussi dans les clubs services qui organisent, et en particulier Janine Bajot. Et puis, c'est aussi la recherche pour le Téléthon, et je crois que c'est important de participer. Voilà, et de se retrouver. Et puis vraiment, c'est l'amitié qui nous lie tous ensemble, donc c'est formidable.
Même constat pour l'organisation qui parle d'un bilan positif. Janine Bajot, la présidente du Lions Club Deliciosa Mont-d'Or, nous en dit plus.
Très positif, il y a beaucoup de monde, la piste est pleine, pourtant on a agrandi la piste. Un grand succès pour cette année 2025. Mais on a dépassé les 800 personnes, on a atteint notre objectif parce qu'on se disait si on arrive à 700 on sera contente. Et on a dépassé à 100 de plus, mais tout le monde est content, tout le monde a sa chaise, tout le monde est assis. Ce sont des gens de tous les horizons, c'est ce qu'on a toujours voulu. Des gens de tous les horizons dans ce beau pays qu'est la Calédonie. Ils sont représentés ce soir à l'hippodrome de Nouméa. C'est ça la table de l'amitié. Et ça fait 18 ans que ça dure. Et ça va durer encore très longtemps.
Oui, le rendez-vous est pris déjà pour l'année prochaine. La table de l'amitié s'est terminée hier soir aux alentours de 23h. Les participants, comme je le disais, se sont donné rendez-vous l'an prochain, une nouvelle fois à l'hippodrome Henri Millard de Lanzvata.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
L'actualité politique et institutionnelle, la visite annoncée de la ministre des Outre-mer sur le territoire, visite qui avait été reportée la semaine dernière en raison des travaux des parlementaires à Paris et qui aura finalement lieu à compter de ce lundi. Michael Juneski.
Naïma Moutchou sera en Nouvelle-Calédonie du 10 au 14 novembre. Elle débutera officiellement ce déplacement demain à 9h30, place Bir Hakeim. Les honneurs militaires lui seront rendus. Naïma Moutchou se rendra ensuite au Sénat coutumier et en fin de matinée, toujours à Nouméa, la ministre des Outre-mer assistera, place de la paix, à une cérémonie en hommage à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Durant cette visite, Naïma Moutchou se rendra dans les trois provinces et multipliera les rencontres sur le terrain, noter qu'une séquence qui n'apparaissait plus dans le dernier programme de sa visite a été ajoutée mercredi après-midi, une rencontre avec l'association citoyen mondorien lors de son déplacement sur la commune du Mont d'Or. La ministre des Outre-mer qui a annoncé également vouloir rencontrer tous les représentants politiques dont le FLNKS. Les invitations ont été lancées, a-t-elle assuré dans un entretien accordé au quotidien Ouest France avant son départ de métropole.
Et on rappelle également que le PALICA réunit depuis vendredi son 50e congrès à Bouraille sur le site de Téné. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, la défense de l'accord de Bougival, la préparation des prochaines échéances, mais aussi le positionnement du PALICA vis-à-vis du FLNKS. C'est Jean-Pierre Jaiwe, l'un des porte-parole qui a prononcé hier le discours d'ouverture. Les travaux doivent s'achever ce soir. Il faut avancer, c'est la conviction du député Nicolas Metzdorf qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Alors que la ministre des Outre-mer est attendue demain en Nouvelle-Calédonie, il estime qu'elle doit apporter des réponses précises et que son déplacement est décisif.
Le député de la première circonscription est revenu sur la récente séquence parlementaire qui a vu l'adoption du report des élections provinciales au terme d'un véritable combat parlementaire. Il explique qu'il faut faire beaucoup de pédagogie à l'Assemblée nationale parce que la représentation nationale est traumatisée, dit-il, par les violences insurrectionnelles du 13 mai et parce que la situation calédonienne est complexe. Les parlementaires ont notamment des difficultés à intégrer les divisions des indépendantistes et à faire la distinction entre le FLNKS et l'UNIPALICA.
C'est normal parce que les deux parlementaires indépendantistes qui sont à Paris sont deux parlementaires de la tendance FLNKS-UC et c'est pas deux parlementaires de l'UNIPALICA. Donc moi je renvoie aussi aux grands électeurs pour les sénatoriales et aux calédoniens pour la seconde circonscription de M. Tshibaou de dire que entre des indépendantistes radicaux et des indépendantistes de l'UNI, ça fait aussi bouger les choses d'une façon ou d'une autre à l'Assemblée nationale. Si moi j'avais eu avec moi à l'Assemblée nationale un député indépendantiste de l'UNIPALICA, il aurait très certainement pas dit les mêmes choses que M. Tshibaou et très certainement que la majorité aurait été plus large. Donc il y a aussi le reflet du choix de la démocratie calédonienne quelque part.
Après l'adoption de la loi organique qui reporte les provinciales, la Calédonie est un peu dans un no man's land, constate Nicolas Metzdorf. Le FLNKS refuse pour l'instant de revenir autour de la table, mais il ne peut pas prendre tout le monde en otage, déclare le député de la première circonscription, qui rappelle que tous les autres groupes politiques soutiennent l'accord de Bougival. Et si le FLNKS accepte de reprendre les discussions, les concessions ne peuvent pas être unilatérales.
Nous, on a été très loin. Enfin, je veux bien rechercher l'apaisement, le consensus et une solution pour la Nouvelle-Calédonie, on a tous besoin. Mais pardon, nous, on est quand même un peu dénudés, là. C'est-à-dire qu'on a lâché le mot État, on devient un État, on a lâché le concept de double nationalité en contrepartie de l'ouverture du corps électoral, on a une loi fondamentale, on a des transferts de compétences régaliennes qui restent possibles même avec un système au Congrès qui est très sophistiqué. Donc bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc est-ce qu'il y a des questions de symboles? Est-ce qu'il y a des questions de reconnaissance mutuelle historique? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut le FLNKS parce que vous savez, c'est ça la difficulté du FLNKS aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Moi, ça fait 3 ans que je fais des réunions avec le FLNKS. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils nous parlent de décolonisation. Bon, ok, mais c'est quoi? Enfin, est-ce que la Calédonie est encore colonisée? Je crois pas. Il nous parle d'émancipation. En fait, il parle de termes très sophistiqués, très philosophiques, mais il n'y a pas de demande concrète.
Il ne faut pas céder à la violence ni aux menaces, déclare encore Nicolas Metzdorf. Il est persuadé qu'il faut avancer et que le projet de loi constitutionnelle doit être présenté au Congrès de Versailles.
Soit, ici, les discussions progressent. Le FLNKS revient à la table des négociations, on négocie. Le PJLC, donc le projet de loi constitutionnelle, est modifié et donc ça prend du temps. Et donc, on attend un peu avant de le mettre dans les tuyaux définitivement. Soit le FLNKS ne vient pas. Et là, notre position, nous, elle est claire au niveau des loyalistes, c'est on met le PJLC dans les tuyaux. On ne va pas attendre 150 ans. Il y a un moment donné, il faut qu'on avance. Donc, un dernier tour. J'insiste bien sur le dernier tour. Hein. Un dernier tour pour tenter de remettre tout le monde autour de la table. Si c'est une fin de non-recevoir, il faudra avancer quoi qu'il arrive. Et même s'il y a des menaces de violence, il faut avancer.
Dans ce contexte, le député de la première circonscription attend de la ministre des Outre-mer qu'elle obtienne une réponse claire du FLNKS sur sa volonté de reprendre ou non les discussions.
Je pense sincèrement que le voyage de la ministre doit servir à ça. La ministre repart à Paris en informant Sébastien Lecornu, Premier ministre, et Emmanuel Macron, Président de la République, si oui ou non, il y a une possibilité de continuer les discussions avec le FLNKS ou si c'est foutu et qu'il faut avancer.
Donc cette visite est quand même assez décisive.
Pour moi, elle est décisive.
Nicolas Metzdorf attend aussi des réponses claires de la part de la ministre des Outre-mer sur l'aide de l'État pour redresser la situation économique de la Nouvelle-Calédonie.
Plus le temps passe, plus c'est difficile de survivre s'il n'y a pas de reconstruction politique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, tant qu'on est dans ce no man's land, dans cette incertitude, la situation de nos entreprises va continuer de se dégrader. Et c'est là où nous, on a un rôle particulier, la classe politique calédonienne et en particulier les parlementaires, c'est d'informer suffisamment l'État pour dire... S'il n'y a pas de reconstruction institutionnelle, il va falloir que l'État débourse de l'argent pour maintenir à flot le niveau de vie des Calédoniens qui baisse drastiquement. Mais là où l'argument que nous utilisons auprès de la classe politique parisienne fonctionne, c'est-à-dire on leur dit, si le FLNKS ne revient pas autour de la table, il faut que vous avanciez quand même. Pourquoi ? Parce que ça va vous coûter extrêmement cher si vous ne le faites pas. C'est une réalité. Parce que si on n'avance pas institutionnellement, la situation économique se dégrade, la situation sociale se dégrade, on va être de plus en plus dépendant de l'État et c'est plus 1 milliard d'euros qu'il va falloir nous prêter, mais 2, 3, 4, 5.
Et à 48 heures de l'arrivée de Naima Moutchou, le député de la première circonscription précisait clairement ce qu'il attend de la visite de la ministre des Outre-mer.
Ce que j'espère de Naima Moutchou, c'est qu'elle soit, et elle en est capable, elle ne soit pas dans la langue de bois. Il faut qu'elle dise les choses. Je pense qu'on en est arrivé à un point en Nouvelle-Calédonie où ça ne sert à rien d'essayer de nous faire plaisir ou pas plaisir. Je crois qu'il faut qu'elle dise les choses. Nous, on va lui dire les choses aussi. On a besoin maintenant de décision, de prise de décision. Moi, je voudrais qu'à la fin de ce séjour, une décision soit actée sur le calendrier de la mise en œuvre de Bougival. Si Naima Moutchou repart et qu'il n'y a pas d'annonce économique de soutien et qu'il n'y a pas d'annonce de calendrier de mise en œuvre de Bougival, sa venue sera un échec.
Nicolas Metzdorf s'est exprimé également sur la situation nationale et son instabilité politique.
Une interview qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet. En bref, cette intervention de la gendarmerie, ce matin, un parapentiste en difficulté a dû atterrir hier en zone montagneuse au nord de Dumbéa. Il a dû dormir sur place cette nuit sur un sentier pour pouvoir être localisé par un moyen aérien ce matin. L'hélicoptère écureuil des gendarmes a pu le récupérer vers 9h, sain et sauf. 12h11, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en France et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le Rotary Club de Nouméa du Cossé Boulari organise un vide-grenier le 15 novembre de 6h30 à midi à l'hippodrome Henri Millard. Le prix des stands est de 4000 francs pour 9 mètres carrés à réserver sur ticket.nc. Tous les bénéfices seront versés aux enfants déficients visuels. Restauration sur place, venez nombreux pour dénicher de bonnes affaires et apporter votre soutien aux enfants.
Jusqu'au vendredi 14 novembre, gagnez un iPhone 16 128Go, cadeau d'une valeur de 119 990 francs, offert par Mobilemania. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le 14 novembre à 14h, 371 francs le SMS. Toutes les actus sur Facebook. Téléphonie, informatique et multimédia, Mobilemania, c'est 5 magasins. Magenta, Centre-Ville, Place des Cocotiers et Galerie Nouméa Centre, Sainte-Marie et Robinson. Mobilemania, vivez mobile. Pour jouer, envoyez chance au 40-20. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal Les Actualités Nationales avec Léo Fichou.
Elles sont soupçonnées d'avoir projeté une attaque djihadiste en plein Paris. 3 jeunes femmes radicalisées ont été mises en examen le 10 octobre dernier pour association de malfaiteurs terroristes. On l'a appris ces dernières heures de la part du parquet national antiterroriste. Les jeunes femmes échangeaient depuis plusieurs semaines déjà en vue d'organiser une attaque. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Si leur cible potentielle n'était pas encore clairement déterminée, elles avaient pour projet d'attaquer des salles de concert ou des bars parisiens, ce que confirme une source policière à Europe 1. Une attaque qu'elles mûrissaient depuis des semaines, échangeant principalement sur des messageries cryptées. Leur projet aurait été déjoué à l'automne, donc même si l'on ignore pour l'instant quand elles comptaient passer à l'acte. Selon les informations d'Europe 1, l'une des suspectes évoquait en ligne dans ses conversations sa volonté de se procurer un fusil d'assaut type Kalachnikov et de quoi fabriquer des des ceintures explosives. Concernant le profil de ces trois jeunes femmes à présent, elles sont âgées de 18, 19 et 21 ans. Elles ont été interpellées début octobre à Lyon, Villeurbanne et Vierzon. C'est celle de 19 ans qui est considérée comme la meneuse du groupe. Elle aurait été repérée par la DGSI, les services de renseignement, dès le milieu de l'été et placée ensuite sous surveillance. Elle partageait régulièrement du contenu pro-djihad sur le réseau TikTok, selon des informations du Parisien. Quant à la plus âgée des jeunes femmes, son profil interpelle alors qu'elle est en situation de handicap moteur. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer si leur projet terroriste avait réellement vocation à être réalisé, alors que les trois suspects démentent pour l'instant tout projet d'attentat.
Et on apprend donc ce projet d'attentat à 5 jours des commémorations des massacres du 13 novembre 2015, attaque de Paris et Saint-Denis qui avait fait plus de 130 morts. Dès le lendemain, la place de la République avait été transformée en mémorial improvisé. Et depuis hier, la mairie de Paris invite la population à faire un geste commémoratif sur ce lieu symbolique des recueillements de 2015. Pour ces premiers jours, de nombreuses personnes ont répondu à l'appel.
Je pense que c'est important d'avoir des petites pensées, même si c'est juste une fleur ou une bougie qu'on vient déposer. Ça peut mettre à l'honneur aussi les victimes de ce 13 novembre.
C'est à la mémoire de tous ceux qui étaient là pour écouter de la musique. À l'époque, on passait devant matin et soir pour amener notre fils à la crèche. Donc c'est notre quartier. Et ça fait hyper bizarre de se dire que nous, on dormait à point fermé et qu'à 50 mètres de là, c'était la guerre.
Je sais que la réaction il y a 10 ans, c'était « j'arrêterai pas de sortir en terrasse, d'être en terrasse ». Et ça continue comme ça. Et je pense que les terrasses vraiment font partie de la culture parisienne. Rien ne nous arrêtera et encore moins la peur.
On notera que le ministre de l'Intérieur a demandé une vigilance accrue à l'approche de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Il considère que la menace terroriste demeure à un niveau élevé sur le territoire et dans un contexte de tensions intérieures et internationales. Également à la une, les travaux sur le budget à l'Assemblée nationale. Un vote qui était très attendu et totalement incertain. Le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale a été adopté par les députés. 176 voix pour, 161 contre. C'est le Parti socialiste qui a fait basculer ce vote. Le RN et la France insoumise ont voté contre. À l'étranger à présent, l'Ukraine, visée aujourd'hui par une nouvelle série de frappes de drones et de missiles russes contre ses infrastructures énergétiques. 4 personnes ont été tuées dans cette attaque qui a par ailleurs causé des coupures de courant dans plusieurs régions du pays, et notamment à Kiev, la capitale. L'actualité dans la région, la princesse Anne est arrivée hier en Australie où elle va passer les 3 prochains jours. Sa dernière visite officielle remonte à 2022 lorsqu'elle avait inauguré le Royal Easter Show de Sydney. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Aujourd'hui âgée de 75 ans, la princesse Anne est accompagnée de son époux, le vice-amiral Timothy Lawrence. Le couple a été invité par les forces armées australiennes à l'occasion du centenaire du corps australien des transmissions, dont la princesse Anne est le colonel en chef. Un dépôt de gerbes est prévu aujourd'hui au cimetière militaire Rockwood de Sydney, que la princesse Anne visitera en sa qualité de présidente de la commission des sépultures de guerre du Commonwealth. La journée de demain sera consacrée à divers événements liés au centenaire du corps des transmissions. Son voyage s'achèvera mardi 11 novembre à Canberra par un dépôt de gerbes au mémorial militaire Anzac. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Le premier voyage officiel en Australie de la princesse Anne a eu lieu en 1970 lorsqu'elle a visité le continent en compagnie de sa mère, la reine Elisabeth. À 12h18, on marque une dernière pause dans ce journal avant de parler sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
C'est la fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Et on ouvre nos pages sport avec du rugby sur la scène internationale. Le 15 de France puni ce matin par les Springboks, Michael.
Oui, et pourtant les Bleus y ont cru pendant presque 65 minutes avant de sombrer en fin de match. Alors qu'ils menaient 14-13 à la pause et en supériorité numérique, puis 17-13, les joueurs de Fabien Galthié se sont inclinés lourdement 32-17 face à l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre. On écoute Thomas Ramos, arrière du 15 de France.
On a beaucoup trop d'occasions ou de moments où on break cette équipe et où on ne score pas derrière. Alors, en première mi-temps, on leur donne des points trop facilement, 13 points gratuits. Et en deuxième période, du moment où on n'a pas réussi à scorer, ils nous ont reculé dans nos 5 derniers mètres. Et eux, par contre, c'est clinique, ça vient se mettre de la ligne, ça marque un essai, ça repart, ça revient, ça marque. Voilà, c'est bravo à eux, ils ne sont pas double champions du monde en titre pour rien. À nous d'apprendre de ces petites erreurs ce soir qui ont fait qu'on a laissé finir le match, parce qu'au final je pense qu'on l'avait très bien entamé, on fait une très bonne entame de deuxième période aussi, et pourtant derrière ces 20 dernières minutes c'est contre nous, donc voilà, c'est comme ça.
Thomas Ramos et ses coéquipiers qui auront l'occasion de se rattraper dès le week-end de prochain, cette fois contre les Fidji, défait par l'Angleterre ce matin 38-18, puis contre l'Australie dans 2 semaines, les Wallabies qui, pour leur part, se sont inclinés face à l'Italie 26-19.
Rugby toujours, pour signaler que cette nuit, Toulon a battu le Stade Rochelet 39-14, un match reporté de la 3e journée du top 14. Avec cette victoire, Toulon est désormais ex aequo avec le Stade Toulousain en tête du championnat. Les Rochelais, eux, pointent à la 7e position. On reste en métropole avec du football, cette fois et la suite de la 12e journée de Ligue 1.
Et la principale information du jour, c'est que l'Olympique de Marseille et Lens s'emparent provisoirement de la première place du championnat de France. Les Marseillais se sont imposés 3-0 sur Brest grâce à des réalisations de Gomez, Greenwood sur pénalty et Aubameyang. Les Lensois, eux, ont écrasé Monaco 4-1 grâce notamment à un doublé de Saïd. Ce matin également, Le Havre et Nantes ont fait match nul, 1-0. Pour rappel, hier, Rennes avait dominé le Paris FC sur le score de 1-0.
À place au sport mécanique avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les pilotes sont au Brésil et c'est Lando Norris qui a dominé cette nuit la sprint race.
Le Britannique sur McLaren avait décroché la pole lors des qualifs et il n'a pas tremblé, il est resté en tête lors des 24 tours de piste. Il s'est imposé devant les deux Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell. Max Verstappen a terminé 4e, Charles Leclerc 5e. Le premier français, Pierre Gasly, a passé la ligne d'arrivée en 8e position. Isaac Hadjar 10e, Esteban Ocon 11e. On notera le crash d'Oscar Piastri sur McLaren dès le 6e tour. Au classement général, Lando Norris possède désormais 9 points d'avance sur son coéquipier, donc Oscar Piastri, et 39 points d'avance sur Max Verstappen, qui réalise une remontée fantastique dans cette fin de saison. Les pilotes disputaient encore les qualifications dans la matinée en vue du Grand Prix qui aura lieu à 4h pour nous la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport mécanique, toujours, on parle cette fois du championnat du monde des rallyes et de MotoGP.
Et sans surprise, en MotoGP, c'est Alex Marquez qui s'est une nouvelle fois imposé sur la Sprint Race au Grand Prix du Portugal devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. On notera la très bonne performance de Fabio Quartararo, le français, au pied du podium. 4e, Joan Zarco, lui, se classe 7e. Rendez-vous à minuit pour le Grand Prix du Portugal. C'est Marco Bezzecchi qui s'élancera en pole position avec à ses côtés sur la première ligne Pedro Acosta et Fabio Quartararo. Joan Zarco Thibaut sera lui sur la deuxième ligne. Et côté tout terrain, le rallye du Japon et le français Sébastien Ogier qui est toujours en tête après 14 spéciales. Il possède plus de 6 secondes d'avance sur Elfyn Evans, le gallois leader du championnat du monde, et 23 secondes d'avance sur un autre tricolore, Adrien Fourmeau.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Le sport côté calédonien à présent avec du football. C'est la nuit prochaine que la sélection des moins de 17 ans va disputer son dernier match de poule du Mondial au Qatar. Après avoir accroché le nul 0-0 contre le Japon, les joueurs de Léo Lopez peuvent toujours se qualifier pour les phases finales. Malgré la fatigue accumulée depuis leur départ, les Cagous sont plus que jamais motivés. On écoute l'entraîneur adjoint Emmanuel Wejiem.
Nos jeunes sont prêts mentalement, physiquement à aller jouer ce troisième match de poule. Troisième match significatif de qualification pour les 32e de finale. On a une grosse envie de se qualifier pour montrer que notre football a évolué ces dernières années. Nous savons que vous êtes tous derrière nous pour pouvoir aller embêter cette équipe du Maroc et décrocher cette qualification qui sera historique pour eux.
Nouvelle-Calédonie-Maroc, c'est donc le dernier match des poules de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Un match à suivre dès minuit 30 pour nous sur le site FIFA+. Je rappelle que lors de la première rencontre, les Cagous s'étaient inclinés 6-1 contre le Portugal. Ils avaient fait 0-0 contre le Japon lors de la deuxième journée. Sur le territoire du karting avec la dernière manche du championnat de Nouvelle-Calédonie qui se dispute ce dimanche.
Les fans de sport mécanique qui peuvent profiter du spectacle, les titres de chacune des catégories seront connus à l'issue des dernières épreuves du jour. C'est surtout l'occasion de revoir trois jeunes prodiges, Ilan Fandou, Raphaël Gilles et Luca Padovez-Robo, de retour sur le circuit de Nakutakoin.
Je m'appelle Ilan, j'ai 14 ans. Quand je fais cette course, ce qui me met bien ou quoi, c'est parce qu'en gros, je suis avec mes potes. On est plein sur la piste. Il y a tout le monde qui se met à fond, il y a personne qui se rabaisse entre eux. Ça a été une très bonne année, peut-être pas au niveau de résultats, mais au niveau d'expérience. J'ai fait à peu près 15 courses en France. Mon expérience a évolué à chaque course. J'ai hâte de le refaire. En tout cas, pour l'année prochaine, je vais faire les championnats australiens. Et après ça, je vais partir en France. Le niveau est très élevé. C'est ça qui m'a fait évoluer.
Je m'appelle Raphaël Gilles et j'ai 11 ans. Ouais, c'est amusant de se battre avec les copains. Je suis parti en France et j'ai fait le championnat d'Australie. Le niveau est un peu plus élevé. J'étais dans une toute petite catégorie en Australie et en France j'étais en junior. Bah, je suis fière et je suis contente vu que j'ai fait des bons résultats. Je vais faire le championnat de France karting junior et peut-être passer en F4.
Je m'appelle Luca Padovez-Robo et j'ai 15 ans. Les conditions elles sont vraiment très chaudes, très humides et très dures. Avec la combinaison, tu peux avoir très chaud et ça fait toujours du bien de retourner ici. Il y a 3 semaines, j'étais parti à Canberra pendant les vacances pour la Coupe de Canberra où je suis arrivé 7e. 2 semaines avant, j'étais au championnat d'État du New South Wales. J'ai pas fini la finale parce qu'on m'a sorti. Un gros accident. Et sinon, je repars la semaine prochaine pour une course à Sydney. Le niveau en Australie est beaucoup plus élevé, mais il y a quand même du niveau ici. C'est trop bien de retrouver tous les amis et tout ça.
Les pilotes à la lutte donc sur le circuit de Nakutakoin en attendant pour nos meilleurs jeunes de se confronter de nouveau aux Australiens ou aux Métropolitains.
Les quais 3-3 depuis hier et jusqu'à mardi, la commission 3 contre 3 de la Ligue de Nouvelle-Calédonie de basketball en partenariat avec Vibes Nation Event organise un tournoi officiel de basket 3 contre 3. Ça se passe sur les quais ferry. Les précisions de Lola, gérante de Vibes Nation.
L'événement tourne autour des tournois 3-3, donc le matin c'est plutôt la partie enfant et à partir de 10h, 10h30, on a les adultes qui jouent. Et en fait, autour de ce tournoi, on a plusieurs animations, donc notamment un château gonflable, des jeux d'arcade, des stands où vous retrouverez de l'artisanat, un barbeur, du quoi faire du shopping dans le type streetwear. On a aussi le bras de fer le matin avec la ligue de bras de fer et l'après-midi, la ligue de force. Niveau animation, on a aussi 3 DJ qui s'enchaînent et en plus, il fait beau, donc c'est top.
Cet événement est gratuit, ouvert à tous. Il mêle sport, art et fête dans une ambiance 100% urbaine et calédonienne. Les quais 3 contre 3, ce tournoi de basketball 3 contre 3, ça se passe donc au quai ferry jusqu'à mardi. Et puis on termine ce journal avec les résultats sportifs et les rendez-vous du week-end.
Oui, en futsal d'abord, on connaît l'affiche de la finale de la Super League. Ce sera un duel entre les deux meilleures équipes calédoniennes, deux des meilleures équipes en tout cas. Le vainqueur de la Super League 2023, l'ASPTT, et le vainqueur de la Coupe de Calédonie 2023, le FC Ferrand. Lors des demi-finales disputées à l'Arène du Sud de Païta, le FC Ferrand a dominé le CSB 8 buts à 4. L'ASPTT s'est imposé sur le SC Negeo 10 buts à 5. Finale prévue le 7 décembre à la salle Jacques Wawanabou de Nouméa. En volley, les finales territoriales se jouent cet après-midi à la salle Jacques Wawanabou, anciennement salle Omnisport de Lens-Bata. À 13h, la finale dames opposera l'AS Païta à Nengone Sport. Puis à 15h, la finale messieurs verra s'affronter Issamous, tombeur il y a quelques minutes de l'équipe ESON à l'AS Païta qui a battu l'Olympique de Nouméa. Et de son côté, challenge organisation organisée ce matin, trail à Point-d'Imier à la tribu de Saint-Thomas sur la distance Rennes, le trail de 20 km, victoire de Gabriel Espada, 1h53 minutes 57 secondes d'effort pour devancer Samuel Conan et Liam Gilquin. La première féminine, c'est Marion Huet. Elle s'est classée, elle a terminé première chez les féminines, on vient de le dire, sur un temps exactement de 2h30 minutes et 31 secondes.
Merci beaucoup, Michael. C'est la fin de ce journal midi.